Un artiste, le plus grand artiste du monde, soit dans un désert ou dans une terre sans habitants, il n'y aurait pas d'art. Parce qu'il n'y a personne pour les regarder. Une œuvre d'art doit être regardée pour être reconnue comme telle. Donc le regardeur, le spectateur, est aussi important que l'artiste dans le phénomène art. Le regardeur ajoute, par son interprétation, à ce que l'artiste n'a jamais même pensé faire. Non seulement il ajoute, mais il déforme à sa façon, à sa, selon son autorité, et Dieu sait si elle est forte, cette autorité, quand il s'agit de la postérité qui, en somme, décide ce qu'on va mettre au Louvre et ce qu'on ne va pas mettre au Louvre. Ce n'est pas les artistes qui le décident, ce sont les autorités. Et les autorités, j'entends par là les spectateurs, les regardeurs de chaque époque, les connaisseurs, enfin, les esprits supérieurs de ces époques, qui sont aussi importants que l'homme qui l'a fait.
Bonjour, et pour vous accueillir, j'ai envie de dire « Vive nous, les regardeurs d'œuvres d'art ». Ces paroles de Marcel Duchamp qui mettent le spectateur au premier plan sont au cœur des préoccupations de Lise Sarfati que je reçois cet après-midi. C'est une photographe française qui vit entre Paris et Los Angeles. L'une de ses photographies a été choisie pour l'affiche officielle de Paris Photo l'année dernière, en novembre 2017. Son travail fait l'objet de nombreuses expositions personnelles dans le monde. Elle participe aussi à des expositions collectives et d'ailleurs, en ce moment, elle est au Centre Pompidou, à Paris, à la Galerie de Photographie, aux côtés de quatre autres artistes contemporains, en écho aux œuvres de Sabine Weiss. Vous avez le temps d'aller visiter cette exposition jusqu'au 15 octobre. Dans cette exposition, donc, une des photographies de la série Oman, dont on va parler, j'imagine, au début de cet entretien, puisque c'est son travail le plus récent.
Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
Bonjour Lise Sarfati.
Bonjour.
Alors parlez-nous, Lise Sarfati, de cette série Oman. Peut-être d'abord, pourquoi ce titre ou pourquoi ces photographies?
Le titre Oman, c'est intéressant comme question parce que j'ai hésité. J'ai eu différents titres. J'ai eu un titre qui s'appelait At Noon, à midi. J'ai eu un titre qui s'appelait, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, qui s'appelait Long Sunny Afternoon, même si le travail évidemment n'a pas été fait en une après-midi. Et j'ai décidé de l'appeler Oman en utilisant aussi une typographie qui était verticale. Parce que, en fait, la typographie et le concept étaient un peu liés à la série. C'est-à-dire que Oman en vertical, ça représente la position verticale de l'homme, et en même temps, le haut représenterait la tête de l'homme. Mais aussi parce que ça fait un peu référence aux Russes des années 20 et à un livre très connu de Maïakovski qui s'appelait Tchelaviak, qui veut dire l'homme. Bon. En dehors de ces références, c'est vraiment le concept du travail. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur la distance entre moi-même, enfin ma caméra et le sujet. Et au début, quand j'ai commencé ma série, j'étais beaucoup plus loin et l'homme dans le paysage était très petit et le paysage devenait très grand, enfin le paysage urbain. Et j'ai adoré mes photos qui étaient magnifiques, mais j'ai trouvé que ça ressemblait à des cartes postales. C'est-à-dire que quand on voit une carte postale, on entoure le personnage qui est minuscule et on dit « j'étais là ». Ce qui veut dire que ce qui domine, c'est le paysage et pas le personnage. Donc, je finis de vous expliquer ma distance. Donc après, j'ai décidé d'abandonner ces photos et je me suis rapprochée du personnage pour prendre position pour le personnage et pour que le regardeur, comme dirait Marcel Duchamp, puisse se positionner d'une manière philosophique pour le personnage.
Alors Lise Sarfati, dans un premier temps, si vous le voulez bien, nous allons écouter un regardeur d'une de vos photos de cette série Oman. C'est Laurent Delmas, il est producteur à France Inter et il a regardé votre photo. Il ne savait pas qui était l'auteur de la photo et où est-ce qu'on était avec cette photographie.
C'est toujours compliqué de raconter une photo à la radio. Je vais m'y employer. Au fond, une photo, ça raconte une histoire, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est du figé, mais qui parle sur du mouvement. Là, en l'occurrence, c'est le cas, puisqu'on a un jeune homme qui marche dans une rue. Après, on extrapole. Alors, moi, je pense que nous sommes aux États-Unis. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Peut-être la veste à carreaux, c'est possible. Il y a un autre indice aussi, qui est propre, me semble-t-il, à une certaine culture américaine, qui est un sac, pochette, papier craft, on va dire, dans lequel il pourrait y avoir une bouteille d'alcool. C'est toujours assez fascinant, je trouve, cette façon de dissimuler l'alcool dans le pays de l'ex-prohibition. Et ça continue. Alors, comme ce jeune homme, il est en âge de boire de l'alcool, hein. Enfin, je le verrais bien avec une petite bouteille d'alcool dans cette pochette en craft. Et puis, il avance, la tête un peu baissée. Et est-ce qu'il va vers cette porte totalement fermée? Ce qui ne serait pas pour lui un gage forcément d'un grand avenir, mais parce que la porte est très, très, très cadenassée. Ce qui est très étonnant dans cette photo, en fait, c'est que finalement, on aurait bougrement envie de voir ce qu'il y a à droite, à gauche, dessous, au-dessus, parce que je pense que les réponses aux questions qu'on se pose, elles sont là. Mais on ne voit pas le hors-champ, évidemment, c'est toute la question. Alors, que va faire ce personnage? Peut-être qu'il va passer tout simplement devant cette porte et que cette porte n'a strictement aucun intérêt. En tous les cas, elle est délimitée par de très, très beaux cadrages verticaux, horizontaux, avec autre chose qui barre aussi la photo. C'est à la fois très cadré et justement, on a vraiment envie d'aller voir hors du cadre.
Merci Laurent Delmas pour ces mots. Lis Sarfati, que pensez-vous de la réaction de ce regardeur-là?
Mais je pense que c'est un regardeur très intéressant, très précis et qui a une approche intéressante de ce qu'on appelle en anglais « the picture ». Parce qu'en anglais, the picture, c'est ce qu'on regarde au mur. C'est pas un document qui passe sur un bureau ou sur un écran. Ce que je peux dire, c'est que j'ai travaillé sur le mouvement. Donc, il a absolument, enfin, en tout cas, on se rejoint là-dessus. J'ai vraiment travaillé sur le mouvement, ce qui est très difficile en photographie. Parce que, comme on sait, la photographie est une image fixe. Et le mouvement s'arrête à un certain moment donné, qui est toujours pas forcément le bon moment. Et il y a eu beaucoup de théories qui ont été faites justement sur le mouvement de Jeff Wall ou de Chevrier, qui expliquent que c'est quelque chose de presque d'incompatible avec la photographie, le mouvement. Donc, pour ce faire, j'ai passé 2 ans à travailler à la chambre et à choisir justement mon cadre en attendant des personnes dans un certain quartier qui est un quartier de warehouse, d'entrepôt.
On est dans quelle ville?
En fait, on est dans aucune ville a priori, mais en réalité, on est à Los Angeles. Mmh. Et je trouve très intéressant le commentaire parce que d'abord il raconte une histoire alors que moi je ne peux pas raconter de l'histoire puisque c'est le regardeur qui doit le raconter son histoire. Et je revendique une photo qui n'est pas autoritaire et qui laisse le regardeur complètement libre de pouvoir interpréter la photographie. Par contre, il y a des éléments très réalistes dans cette photographie, à savoir, pour ceux qui connaissent un petit peu cette esthétique, c'est la réalité des entrepôts et des quartiers d'entrepôts où on vend des choses en gros. Et c'est le quartier de Downtown Los Angeles. Mais on voit aussi sur l'image, je viens de le voir, ces espèces de petits pics qui sont destinés aux tremblements de terre aussi sur le bâtiment. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement. Et c'est aussi les personnages qui sont à la fois anonymes et à la fois très précis.
Lis Sarfati, c'est le mouvement, mais c'est aussi la lumière. Cette lumière, c'est un personnage presque principal de votre travail.
Le ciel bleu et la lumière sont des caractères, enfin, les personnages de ces photographies. Le point de vue lumineux, il est venu du fait que je voyais aussi à Los Angeles, à chaque carrefour, des productions de cinéma absolument dingues, avec des moyens hallucinants, où on reconstituait des soleils entiers, des nuages, enfin de tout. Et je voyais la lumière sublime qui était fabriquée par les productions de cinéma. Et je me suis dit que finalement, moi, je pouvais utiliser une production énorme, mais sans avoir les moyens. Donc, j'ai utilisé le soleil. Mmh. Et le soleil est un élément exceptionnel en Californie, parce qu'il irradie les scènes, il irradie le landscape, le paysage. Et j'ai choisi deux photographies à des moments de soleil intense, alors que jamais les photographes n'utilisent ce moment pour photographier. C'est vraiment, en général, les photographes fuient le grand soleil.
Et pourquoi avez-vous travaillé pour cette série à la chambre, Ali Sarfati?
Je voulais juste finir sur la lumière et dire Allons-y. Que la lumière était un point de vue, une prise de position, et que dans ce cas-là, elle représente pour moi une illumination. Et cette illumination permet au regardeur, au viewer, de pouvoir voir le personnage et pouvoir aussi découvrir le paysage, parce que le paysage a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup d'ombre portée, qui sculpte l'image. Donc, on peut aussi regarder le paysage. Donc, le regardeur est libre de se déplacer où il veut.
Lise Sarfati, je voulais aussi parler de ce travail à la chambre. Pourquoi avoir choisi de travailler de cette façon, avec ce trépied surmonté d'un appareil un peu imposant?
Très imposant. On est obligé d'avoir... on ne peut pas être seul, parce que c'est très lourd. Je voulais avoir des moyens qui étaient assez importants. Je voulais que les bâtiments soient très droits, je voulais redresser les perspectives, je voulais aussi avoir un point de vue qui était un peu plus haut qu'un point de vue monté un tout petit peu pour changer le regard du viewer, du regardeur, et monter un tout petit peu plus haut comme... c'est pas des scènes de western, mais bon, ça s'apparente à donner aussi beaucoup d'importance au personnage, qui en général est traité d'une manière assez différente, quoi, dans la street photographie, dans la photographie de rue. Ça fait partie du décor, mais bon, disons que ce point de vue qui est un tout petit peu plus haut, parce que j'étais souvent sur un escabeau, crée aussi une photographie qui est complètement différente. Et on ne sait plus tellement où se placer, c'est-à-dire où regarder. Est-ce qu'on doit regarder le paysage? Est-ce qu'on doit regarder la rue? Est-ce qu'on doit regarder le personnage? Ça crée une position ambiguë qui est fascinante aussi et qui tend le regard de la personne qui regarde.
Je n'ai jamais, je crois, reçu un photographe qui parle autant du spectateur de ses photographies. Vous êtes sans arrêt en train de parler du regardeur, du viewer. C'est dans votre pratique, depuis toujours, un autre personnage très très important, évidemment.
Bah oui, c'est Marcel Duchamp qui disait que sans le regardeur, il n'y avait pas d'œuvre et que c'était le regardeur qui créait l'œuvre. En plus, je trouve que ça permet de mettre les choses à leur place, parce que la biographie des photographes ou les histoires qu'ils peuvent raconter sur les photos, en général, c'est pas très intéressant. Enfin, selon moi, ce qui m'intéresse, c'est la photographie en tant qu'objet et la vie de cet objet. Et cette vie, elle existe que par le regard de la personne qui le fait vivre. Donc, soit on garde ces photographies chez soi, soit on les met sur un mur et puis elles ont leur vie.
Et pendant que les photos vivent leur vie, allez donc voir ce drôle de clip qui accompagne ce titre. Psychostar, signé King Tuff. Et vous retrouvez d'ailleurs la programmation musicale sur franceinter.fr.
Watching the wind blow. watching the rain so hard, watching the fire getting higher on this strange little star, watching the wind blow. So beautifully bizarre.
C'est Regardez voir sur France Inter avec la photographe Lise Sarfati. Lise, il y a quelque chose d'impressionnant avec les formats de vos photographies. Elles sont tellement grandes qu'on a l'impression de pouvoir entrer dans la scène comme ça, de s'inscrire dans le paysage, d'aller dans le mouvement que vous créez, même si évidemment ce sont des images fixes.
Oui, exactement. Et on peut découvrir des détails qui sont comme, enfin, notamment tout ce qu'il y a au sol. Là, la personne qui parlait du petit sac qu'on n'aurait pas vu en petit format. Disons qu'on n'est plus dans l'anecdote, quoi. On est dans le, je sais pas comment on dit en français, en anglais on dit depiction, je sais pas, description. Et je voulais dire par là que c'est pas non plus, mon travail n'est pas du tout une esthétique en soi, parce que ça m'intéresse pas du tout au niveau de la photographie. Elle est aussi, je prends position pour ces hommes que j'ai photographiés.
Oui, alors
donc
que...
c'est pas, je fais pas des belles photographies qui attirent d'une manière facile.
Oui, je comprends bien ce que vous voulez dire, mais
c'est quand même assez. Important, je crois.
Et ce sont des hommes, évidemment, dans cette série qui s'appelle Oman,
oui.
Alors que jusqu'ici, vous avez beaucoup travaillé avec le personnage de la femme.
Oui.
Alors, on va regarder cette série que vous avez créée entre 2005 et 2009, avec des femmes d'une même famille, que vous avez photographiées pendant donc quelques années.
Voilà. Enfin, mon histoire, comment ça s'est fait ? Effectivement, c'est quatre femmes de la même famille. La mère, la sœur, la fille et la deuxième fille. Donc là, ça devient des sœurs, des tantes,
des personnages qui s'entremêlent dans une famille.
Par contre, c'est pas du tout une histoire, mon travail, en tant que tel. C'est plutôt des photographies de ces femmes dans des situations... banales, dans leur maison et dans leur salle à manger ou dans la ville de Auckland. Mais c'est des, enfin, je veux dire, c'est une séquence, c'est comme une séquence. Donc, c'est des photos, j'ai fait à peu près, j'ai travaillé à peu près une journée par an avec chaque femme qui ne se voyait jamais. Et après, j'ai absolument mélangé toutes les années, j'ai mélangé tous les lieux et j'ai recréé une séquence qui a été reconstruite avec seulement la photographie. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas un reportage.
Vous ne racontez pas l'histoire de cette pseudo-famille.
C'est pas leur biographie. C'est une reconstitution.
C'est plus un travail sur la femme, sur l'identité féminine.
Exactement. C'est un travail sur la figure féminine et sur l'identité féminine et sur la civilisation aussi féminine.
Alors la première chose moi qui me frappe, c'est la végétation qui est luxuriante en arrière-plan. Et on a cette femme qui fume une cigarette. Elle a les bras nus, beaucoup de tatouages. Notamment, je tourne la tête, j'ai l'impression que c'est une araignée, je suis pas certaine. Un insecte en tout cas sur son bras droit qui est un peu terrifiant. Elle fume une clope, elle regarde sur le côté et elle a un regard absolument dingue, cette femme. Je dirais qu'elle est très préoccupée, elle semble vraiment triste, elle a le visage très cerné, beaucoup de fatigue, ça va pas fort quoi, pour le dire simplement. On sent qu'elle met tout son désespoir dans cette clope qu'elle est en train de fumer. Les mains aussi sont tatouées d'ailleurs, elle a un tatouage sur chaque doigt, on voit qu'elle tient sa cigarette, elle s'agrippe à sa cigarette, elle regarde à droite et vraiment... Ouais, mélange de fatigue, de tristesse et de colère. Elle a l'air en colère hein, contre quelque chose. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une espèce d'ombre sur ses yeux, comme si en fait elle portait un masque. Il y a de la lumière sur le visage, mais pas sur les yeux. Comme si ça insistait encore sur cette fatigue. La chevelure de cette femme est complètement incroyable aussi. Elle a des cheveux noirs, corbeaux, très belle chevelure, qui sont de la même couleur que sa jupe et que ses tatouages. Elle fait un peu peur et en même temps, on a envie de lui demander ce qui ne va pas. Mais vu qu'elle n'a pas l'air très commode, on ne sait pas si on oserait lui poser la question. Sincèrement, j'oserais pas lui demander ce qui cloche.
Merci beaucoup, Dorothée Barba, pour vos mots. Lise Sarfati, Dorothée Barba vous fait sourire.
Oui, ben, je ne m'attendais pas à cette... À cette interprétation, mais pourquoi pas? Chacun y voit quelque chose, c'est ça qui est bien.
En tout cas, vos photographies posent des questions.
Voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est très difficile de voir juste une photographie de Maserichi parce que c'est... Enfin, c'est comme une phrase où on aurait pris un mot. Bon, donc c'est assez difficile. Disons, si j'avais quelque chose à dire sur cette photo que j'aime beaucoup, c'est effectivement la lumière alors que la lumière de toutes mes photos de Chi est différente, mais là, c'est, en l'occurrence, la lumière est encore très significative de cette image. Et j'ai été très impressionnée par le loup qu'elle a sur les yeux, qui est comme un masque, effectivement, mais je trouve ça très beau, moi, par contre. Ça m'angoisse pas. C'est quelque chose que je trouve assez sculptant, justement, parce que je trouve ça un rapport avec la végétation qui est très...
Luxuriante.
Luxuriante. Et je trouve que le personnage de la mère, hein, là, est très ambigu, parce que ce personnage a tout d'un coup un rapport avec le fond, enfin, comment on appelle ça, le décor, et avec cette luxuriance. Donc, le fait qu'elle soit tatouée avec même des insectes, je trouve qu'elle a un rapport vraiment animal à son environnement. Et je trouve aussi que c'est aussi une manière de connaître le langage de l'image et d'avoir vu aussi beaucoup de photographies qui sont différentes. C'est-à-dire que on n'est pas dans une photographie de séduction avec des codes qui sont des codes de la photographie de mode ou de la photographie de famille, mais on est dans quelque chose de précis, d'une sensation comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est quand la photographie crée une sensation, une émotion. Mais ces femmes-là, sont intéressantes parce que elles sont, c'est des femmes qu'on peut ressentir comme des femmes névrotiques, mais qui ont leur univers est quand même assez limité, leur projection est assez limitée, et c'est ça qui m'intéressait aussi dans cette série-là. Ce qui m'intéressait, c'était la ressemblance entre ces femmes-là et le fait qu'on n'arrivait plus à donner une identité, ni d'âge, ni de...
C'est vrai, on n'arrive plus dans le livre qui est là près de nous. Je dois dire aussi que les photos dont on parle sont sur le site franceinter.fr à la page Regardez voir. Ça veut dire que pendant cette émission, vous pouvez aller, si vous nous écoutez, les regarder. Lise, vous choisissez vos personnages? Comment ça se passe? Vous les mettez en scène? Non, je ne pense pas.
Chaque fois, c'est complètement différent. C'est-à-dire que pour ma série Chi, je les ai choisis, mais c'était en fait la mère et sa sœur étaient les personnes à qui j'ai fait signer un press release quand j'ai fait The New Life, la vie
Qu'est-ce
nouvelle.
Qu'est-ce que c'est un press release?
C'est une autorisation pour faire une photo de quelqu'un qui est mineur.
Ben, bien sûr.
Mais donc, forcément, j'ai eu rendez-vous avec elle à chaque fois, une fois par an, chez elle. C'est cette rencontre qui a créé les photographies que j'ai faites. Donc, je pense que ça n'a rien à voir avec la mise en scène ou le spontané. Ça a à voir avec la manière dont a été créée ces photographies, c'est-à-dire dans un univers assez intime.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends, qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoire. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux.
Elle s'appelle Angèle, je veux tes yeux, avec un clip signé, à noter, de la photographe Charlotte Abramoff, qui était déjà à l'œuvre sur le précédent titre, La loi de Murphy.
Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
Lisa Arfatti, quand est-ce que vous savez qu'une série est terminée? Que là, vous allez arrêter ce travail-là pour passer peut-être à autre chose?
C'est très difficile, c'est-à-dire terminer, c'est pas difficile, mais ce qui est difficile, c'est de savoir si cette série peut porter vraiment le regardeur, quoi. Si c'est quelque chose qui transcende la réalité, qui transcende cette sensation de... Enfin, qui va beaucoup plus loin, qui crée une profondeur au niveau de la vie et de... Enfin, j'ai du mal à le dire. Mais j'avais fait une citation justement de Baudelaire que j'aime beaucoup par rapport à mon travail, qui est « Dans certains états de l'âme, presque surnaturels, la profondeur de la vie se révèle tout entière dans le spectacle, si ordinaire qu'il soit, qu'on a sous les yeux. Il en devient le symbole. » Bon, ça arrive très rarement en photographie, donc j'essaye à chaque fois que je développe une série, un travail, d'être dans cette énergie.
Ça fait plusieurs fois, Lisa Arfatti, que vous citez la Russie. Vous y avez vécu, vous y avez pratiqué la photographie aussi, vous parlez le russe, vous avez même fait un doctorat sur un sujet en particulier.
Sur la photographie des années 20.
D'accord.
Et l'avant-garde des années 20.
Y retournez-vous aujourd'hui en Russie?
Non, plus maintenant. J'ai vécu à peu près 10 ans en Russie, à l'époque avec des bourses du ministère de la Culture et de la Villa Medici. Et je pense que j'avais vraiment envie, quand je travaillais en Russie, de vivre mon expérience photographique comme une expérience de vie. J'avais pas tellement envie de développer un travail. C'était plutôt, pour moi, c'était une espèce de rage de vivre et d'aller dans certains endroits, de rencontrer certaines personnes. Je vivais chez une femme qui était la journaliste des Izvestia, qui était une amie très proche de Tarkovsky et de beaucoup de
d'artistes
absolument géniaux et j'ai rencontré beaucoup de d'artistes intéressants aussi. Ça a été une expérience de vie. J'ai aussi appris le rapport à l'espace, la psychologie, parce que toute la psychologie des personnages était très développée puisqu'ils n'avaient pas la possibilité de se réaliser d'une manière sociale. Et comme je connaissais bien la littérature russe aussi, enfin tout a été... C'était bien, c'était violent, c'était difficile, mais bien. Mmh.
Mais ce n'est pas en Russie que vous avez appris la photographie. Est-ce que vous l'avez appris, finalement?
Ben si, un petit peu aussi, parce que quand je suis revenue de Russie, c'est là que j'ai fait une exposition avec Robert Delpierre au Centre National de la Photographie, à Paris, à l'hôtel Salomon de Rothschild, je crois que ça s'appelait comme ça. C'est l'ancien Jeu de Paume. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que... Enfin, ça, c'est ma biographie ancienne, et c'est comme ça que je suis rentrée à l'agence Magnum avec un intérêt pour Raymond Depardon et Joseph Koudelka.
Mais vous n'y êtes plus à l'agence
non,
Magnum.
Non, je suis restée 15 ans à Magnum et puis je suis vraiment partie en courant. Voilà.
Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une agence. Vous êtes représentée par différentes galeries en France, aux États-Unis, mais vous êtes indépendante.
Je suis une artiste, je suis pas indépendante, je suis représentée par des galeries aux États-Unis, à New York, à Los Angeles et maintenant à Paris. J'ai pas besoin d'agence parce que je ne fais pas de photographie de presse ou mon travail est dans la presse quand on parle de mon travail, mais pas. Enfin, je fais très peu de commandes. Si, j'ai fait quelques fois, quand j'étais aux États-Unis, j'étais contactée par Time Magazine qui m'a fait faire une couverture, mais.
Oui, les commandes, quand elles vous intéressent, vous y allez, si voilà. Ça peut vous apporter quelque chose.
Mais disons que c'est pas mon intérêt.
J'aimerais bien qu'on parle de la série The New Life, La Nouvelle Vie. On peut traduire comme cela? C'est pas
ah
très
bah
beau.
C'est vraiment... Mais... Le titre est français, c'est-à-dire c'est La Vie Nouvelle.
Ah, c'est encore
c'est
mieux.
C'est La Vie Nouvelle la et vie ça nouvelle. Vient de l'italien qui est La Vita Nova de Dante.
Alors ça, c'est une série que vous avez réalisée... Dans quelle année? Parce que je ne voudrais
2003.
Pas faire d'erreur. Oui, qui a été publiée.
C'est vraiment une série qui a été
exposé vraiment, de nombreuses fois.
Oui, ça a été exposé 14 fois dans les musées, dans les galeries. Et ça a été une série qui a été très reconnue.
Qui a fait aussi peut-être votre renommée.
Qui a fait ma renommée et qui a été achetée par tous les musées aux États-Unis et tout ça. Donc ça a été très important pour moi, cette série.
Est-ce que là encore, c'est une série qui est en lien avec votre propre vie, votre adolescence?
Voilà, alors ce qui est incroyable, c'est que souvent on dit ça, on dit que c'est relié à une autobiographie, mais en fait, c'est on va plus loin quand on travaille comme un artiste ou quand on est photographe. Disons qu'on et on va beaucoup plus loin que notre autobiographie, qui est en général vraiment ennuyeuse.
Ou sa propre ennuyeuse.
Psychanalyse. C'est ce que disait Mike Kelly. Bon, l'autobiographie, c'est quelque chose qui va pas loin. On a quand même d'autres ambitions.
Quelle est votre ambition, Lise Sarfati? Avec la photographie en général.
D'abord, je trouve le titre vraiment important. La vie nouvelle, j'étais ravie de le trouver parce que c'était quelque chose d'important pour moi. Je l'ai vraiment trouvé en fonction de Dante, de la vie nouvelle. Parce que dans la vie nouvelle de Dante, la Vita Nova, il y a une fille de 9 ans, Béatrice. Dante était amoureux d'une fille de 9 ans toute sa vie, qui était Béatrice. Et vraiment, la vie nouvelle, c'est un travail sur la projection dans un autre corps, dans une autre vie, mais dans un autre corps. J'ai toujours été intéressée par la projection. Mais j'ai récemment trouvé alors je vais sûrement pas donner une belle citation, mais j'ai trouvé une phrase de Marx qui m'a vraiment intéressée aussi, mais c'est récemment, qui disait, laissons les morts enterrer les morts et entrons dans la vie nouvelle. Enfin, quelque chose comme ça. Je trouvais ça très très beau. L'histoire de la projection, du fait de se sentir quelqu'un qui va se projeter dans un autre corps, dans un autre avenir, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. J'avais rencontré aussi Julia Kristeva, qui aime beaucoup mon travail, et qui m'avait dit... certes, la vie nouvelle, mais ô combien d'interrogations devant le vide. Et je crois que c'est quelque chose d'important dans tout mon travail, c'est ce rapport au vide, et d'une manière très réaliste, très concrète ou très psychologique.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. She
at the stadium. Ooh, 20,000 girls calling the name out to me.
Smith sur France Inter. Vous pouvez regarder les photos dont on parle en ce moment avec Lisa Fati sur la page Regardez voir avec franceinter.fr évidemment. Et c'est la productrice que vous connaissez bien, Patricia Martin, qui regarde une photo de la série The New Life.
C'est une photo qui attrape le regard parce qu'il y a un premier plan et parce qu'il y a de la couleur. Une couleur qui est en contraste avec la nuit, parce que ça se passe la nuit, mais il y a de la couleur rouge. Il y a une grille de fer avec des barreaux espacés qui rougent. Le polo de la jeune femme qui est en premier plan est rouge aussi. On voit que c'est la nuit parce que le ciel est noir dans le fond. Il y a une luminosité de réverbère très forte. Donc c'est très contrasté sur le plan de la couleur. Cette femme dans ce désert, parce qu'elle est le seul être humain dans un univers un peu comme ça. C'est une espèce de rue, mais c'est pas asphalté. On se dit qu'on n'est pas dans un pays très riche ou pas dans un endroit très fortuné, en tout cas, puisque c'est pas asphalté, c'est un peu de la pierre. Enfin, il y a quand même un trottoir. Et alors, derrière les barreaux rouges, on voit ce qui pourrait être ou une citerne, la citerne d'un camion, peut-être. Ça peut être une sorte de garage de camion. C'est la nuit, donc ça donne une atmosphère un peu anxiogène. Et cette femme est dans la lumière, une lumière indirecte mais qui vient quand même des réverbères. Elle est brune, elle a les cheveux raides, un peu mi-longs. Elle n'est pas assise sur le trottoir parce que sinon on la voit que jusqu'à... Enfin c'est un portrait américain quoi, on la voit jusqu'à la taille. On voit le début de ses bras. Elle n'est pas assise par terre parce qu'elle est trop haute. Alors on se demande sur quoi elle est assise parce que ça paraît assez surréaliste qu'il puisse y avoir là un tabouret ou une chaise. Elle a le dos un peu voûté alors qu'elle est jeune. Une jolie fille, un joli profil, un très joli nez. Une belle bouche, des yeux assez maquillés. On ne voit qu'un œil et un regard oblique, puisqu'elle est de profil, mais elle est jolie, cette femme. Mais le fait qu'elle ait le dos un peu voûté, comme ça, lui donne un air fatigué. Mais comme elle a une sorte de sourire, c'est pas triste du tout. On peut imaginer qu'elle attend, je sais pas, son Jules, qui est peut-être chauffeur du camion qui vient de se garer. Il y a quelque chose à la fois de la fatalité et de l'espoir dans cette photo.
Merci Patricia Martin. Lisa Fati, vous avez, pendant qu'on écoutait les mots de Patricia, dit « elle est jeune ». Mais c'est vrai, ce sont des ados dans cette série The New Life.
En fait, ce sont des personnages qui sont jeunes, puisque justement le titre « La vie nouvelle » montre bien cette idée. Oui, ils sont jeunes et c'est justement cette idée de projection d'un corps dans un autre corps, dans une autre vie qui était mon interrogation. Mais concrètement, c'est aussi, et ça rejoint la série Chi qui a été faite après, une série de photographies de personnages dans des univers très familiers, très proches de leur quotidien et dans des actions minimales.
En même temps, Patricia Martin, tout ce qu'elle disait, il me semble, correspond bien à votre travail, c'est-à-dire capter la beauté, en même temps la vulnérabilité, ce désir d'un ailleurs. Non, vous ne trouvez pas ?
À l'époque, je travaillais au Leica, donc c'est un appareil qui est très petit, avec un film qui s'appelait La Kodachrome, qui est un film très intéressant parce que qui n'existe plus, c'était une diapositive. Beaucoup utilisé par Eagle Stone et par aussi le cinéma hollywoodien des années 40. Et ce film avait comme particularité d'être un film diapositive noir et blanc, dont les copiants de couleurs étaient révélés au moment de la chimie. C'est-à-dire que ça créait des aplats de couleurs, qui étaient des aplats de couleurs qui étaient assez basiques, mais qui créaient une intensité particulière. En l'occurrence, cette photographie, et je ne sais pas pourquoi je l'ai choisie finalement, je trouve qu'il y a un rapport entre toutes les images sans que je...
Ça, c'est sûr. Oui.
Cette fois encore, bien que ce soit de la lumière complètement naturelle et qui est un peu contradictoire, c'est la lumière qui sculpte l'image et la personne qui l'a regardée a très bien vu qu'on est en fait sur un parking lot et j'avais rendez-vous avec cette jeune fille. En fait, avec ses parents sont venus l'attendre dans le parking lot, dans la voiture, parce qu'ils avaient peur sûrement que je l'enlève. Et on est devant un McDonald's, en fait, et elle est assise sur le bord du trottoir. Et disons que je ne sais pas pourquoi je vous donne tous ces éléments que je devrais...
garder pour vous.
Garder secret.
Non, c'est bien, parce que de toute façon, le regardeur, à chaque fois, se pose 1000 questions.
Oui.
À quoi pense cette femme? Et c'est ce que vous désirez, au fond, Lisa Fati, que vos photographies nous touchent, quoi, nous questionnent, nous emmènent.
Oui, exactement. Que chaque personne puisse avoir un lien à la photographie, sans que ça soit quelque chose d'autoritaire ou de... Pourquoi ? Parce que il faut que cette photographie vive. Il faut aussi que la personne qui regarde ne soit pas l'esclave de cette photographie.
Qu'elle soit libre aussi.
Qu'elle soit complètement libre et qu'il y ait cet esprit de non autoritaire sur la photographie. Moi, il n'y a rien qui m'ennuie plus que de regarder des œuvres qui ne me laissent pas le choix. Et ça, je le détecte en 3 secondes parce que j'ai l'habitude aussi de pouvoir créer des photographies qui sont différentes.
Vous êtes française, vous vivez aux États-Unis. Quand vous revenez en France régulièrement, hein, je pense, vous avez envie de photographier en France? Est-ce que c'est une question
que
de lieu?
Je ne suis pas trop... Instagram, moi, je suis pas trop faire tout de suite une image. Et j'ai pas du tout cette manière de penser la photographie. C'est toujours, il faut qu'il y ait une implication, il faut qu'il y ait un désir, il faut qu'il y ait vraiment une démarche. Donc je sais pas. Je suis allée aux États-Unis uniquement parce que le paysage était simplifié. Et le paysage étant simplifié, le personnage devenait plus important. Et en France, c'est différent parce que l'architecture est tellement importante que le personnage est complètement dominé par l'architecture. Donc il faudrait réfléchir pour savoir comment travailler et sur un thème intéressant et sur une image, une photographie intéressante qui puisse être différente. Je sais qu'Eggleston a travaillé sur Paris d'une manière différente, bien que son travail n'ait pas du tout été apprécié quand il a fait ce travail sur Paris, que moi je trouve intéressant.
Parmi les photographes contemporains aujourd'hui, qui appréciez-vous? Vous avez cité plusieurs photographes qui sont plus lointains.
Bah écoutez, moi je suis ce que j'aime, c'est me nourrir d'artistes, pas forcément photographes aussi, hein, pas parce que je n'aime pas les photographes, je les aime beaucoup, mais disons que c'est pas mes références. Bien que je puisse admirer un photographe, je puisse admirer son travail, mais mon attirance et ma manière de me construire, elle va pas passer par les photographes.
Elle passe par
ça
le
m'intéresse
cinéma.
Pas la photo finalement.
Oh bah c'est oui. La meilleure. Ça, c'est vrai. Une très belle conclusion.
Non, mais c'est vrai, en fait, c'est vrai, parce que j'ai été formée à autre chose. Et
vous avez été formée à quoi?
J'ai été formée à l'écriture.
La littérature.
À la littérature, à
le cinéma.
Au cinéma, parce que j'ai beaucoup travaillé sur des films, même de Tsiga Vertov, où j'ai appris à les remonter différemment, faire un montage d'un film déjà existant, mais de le refaire un montage. Et puis, bon, je cite toujours Robert Bresson, que j'aime beaucoup. Mais je crois surtout la littérature, je crois que c'est en fait le fait de vouloir écrire, mais de le faire avec, avec la photographie. Mais bon, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les artistes, par exemple comme Mike Kelly, qui est un artiste contemporain. Bon, il s'est suicidé, mais lui a fait des séries photographiques aussi, que j'adore. Et j'adore Thomas Ruff aussi, Jeff Wall. Mais disons que, bon, je connais très bien la photographie. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai moins de références. Et je change tout le temps d'intérêt. Quoi. Mon intérêt est vraiment...
Il bouge.
Il bouge beaucoup.
C'est bien normal.
Il bouge beaucoup et je pense que on peut pas limiter les noms comme ça parce que tout ça c'est un résidu de culture et c'est vrai que quand on a 16 ans ou 17 ans, on peut dire voilà, Sigmund Freud, Dostoïevski, j'aurais dit ça.
La vie n'est pas si simple.
À 16 ans ou 17 ans. Mais à mon âge, je pense que faudrait que je passe 12 heures à citer.
Bien
sûr. 3000 personnes, quoi. Aussi bien Nordstein qui fait des dessins animés avec des dessins qu'il fait lui-même, qui est sublime, en Russie. Ça n'en finirait plus.
En tout cas, Lisa Fati, merci beaucoup d'être venue dans Regard et Voir, passer cette heure-là avec nous. Sur le site, on retrouvera tous vos livres, le dernier paru chez Steidl. Roman,
oui.
C'est le dernier.
Oui.
Et puis les photos dont on a parlé. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Et puis, n'oubliez pas l'exposition « Les villes, la rue, l'autre » autour de Sabine Weiss au Centre Pompidou à Paris. Lisa Fati présentée à Paris toujours par la Galerie Particulière. Vous pouvez aussi aller visiter son site lisarfati.com. À la technique cet après-midi, Florent Beauvallet, attaché de production Perrine Malinge. La réalisation est signée Marie-Hélène Fauquet. La programmation musicale Thierry Dupin. Regardez Voir revient samedi prochain à 14h avec la photographe Dorothy Shoes. Vous pouvez aussi nous retrouver, ce n'est pas interdit, sur les réseaux sociaux et nous laisser vos commentaires. Juste après les informations de 15h, vous retrouvez la série des médias francophones publics Jacques Higelin. Bel après-midi à vous.